18h17 sur France Inter, c'est la suite du 18-20. À vous Bayeux, Fabienne Sintès, en direct du 24e prix des correspondants de guerre.
Voilà, c'est la suite et c'est même le début, Florence, puisque on commence. Merci beaucoup à tous. Ravi de vous retrouver à Bayeux. Donc, pour ce prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, on me demande de dire qu'il fait beau à Bayeux aujourd'hui, donc je m'empresse de le dire. Nous sommes là, en tout cas, pour vous montrer, surtout à travers ceux, à travers celles qui en parlent, qui vont à leur rencontre, là, non pas pour vous montrer la guerre, mais pour vous montrer ceux qui doivent vivre avec, ceux qui la subissent, ceux qui la porteront probablement longtemps sur leurs épaules, ceux et celles surtout d'ailleurs parfois. Vous allez rencontrer des femmes ce soir ou des enfants qui ont servi de monnaie d'échange ou de trésor de guerre en Ukraine, en Syrie ou ailleurs. Vous allez rencontrer une jeune femme à Raqqa et on va y aller aussi d'ailleurs voir ce que devient en Syrie cette ville symbole. Soyez les bienvenus donc vous qui nous écoutez et vous qui avez eu la gentillesse de venir ici nous voir à Bayeux à l'hôtel du Doyen.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Et c'est avec vous qu'on commence. Bonsoir les Lamignano. Bonsoir Anne-Laure Pinault aussi. Bonsoir. Vous co-signez toutes les deux, co-signe parce que vous êtes très nombreuses hein, sur cet ouvrage qui a 9 journalistes, si je ne me trompe, tout qui y ont participé. Un livre qui s'appelle Impunité Zéro, c'est publié aux éditions Autrement. Et vous le dites vous-même, on va y revenir, que c'est pas un livre agréable à lire. Et en effet, c'est vrai que quand on parle de violence sexuelle en temps de guerre, c'est pas très agréable. Mais depuis quand la guerre est-elle sans violence? Je dis que ce livre a eu plusieurs vies parce qu'il a commencé par des récits qui ont été publiés au fur et à mesure par Mediapart et d'autres médias internationaux. Il y a un film d'animation qui a été primé aussi, c'était au FIPA, le Festival International de Programmation Audiovisuelle. Et ce film d'ailleurs d'animation, on pourra le voir en salle bientôt d'ailleurs.
Premier trimestre 2018.
Et voilà, il y a eu des pétitions, il y a eu des happenings aussi autour de ce qu'on va se raconter maintenant. Et on est heureux de donner encore de l'écho à ces séries d'enquêtes qui ont été donc réalisées par vous, qui nous emmènent à la fois en Syrie, qui nous emmènent aux États-Unis, qui nous emmènent en Ukraine, qui nous emmènent en Centrafrique, qui nous amène dans les couloirs de l'ONU aussi, et dans les couloirs de la Cour pénale internationale, et on verra que des fois, il y a peut-être de quoi désespérer. Quand on dit que c'est pas un livre agréable, effectivement, ça parle de viol, et lorsqu'on parle de viol en temps de guerre, c'est vous qui le dites, d'ailleurs, on imagine des hordes sauvages, on imagine des milices incontrôlables, mais pas du tout, en fait. Ce que vous décrivez est très loin de tout ça. On parle de soldats français, de soldats ukrainiens, on parle d'Américains qui répondent à des ordres. Ce sont des gens, on va le dire comme ça, extrêmement normaux que vous allez croiser tout au long de cette enquête. Léla Mignano.
En effet, quand on parle de viol comme arme de guerre, le réflexe est de se dire « c'est pas nous, c'est les autres ». D'ailleurs, c'est très souvent le territoire africain et des hordes africaines qui sont désignées, notamment par les porte-paroles politiques, par la justice internationale, etc. Mais nous, ce qu'on montre dans notre enquête, c'est que les soldats qui violent, aujourd'hui, ils n'ont pas de drapeau, ils n'ont pas de nationalité ni de couleur de peau. Les agresseurs, malheureusement, sont également dans nos rangs, les troupes françaises, mais également dans ce qu'on appelle les troupes des armées occidentales, des armées puissantes aux États-Unis, également en Ukraine. Donc du coup, ce qu'on a voulu montrer, c'est que l'impunité, elle règne partout, effectivement en Afrique, mais également chez nous, en France, où les soldats qui se sont rendus coupables d'agressions sont rarement inquiétés.
Alors justement, tiens, puisqu'on parle de soldats rarement inquiétés, vous avez enquêté notamment toutes les deux sur Sangaris et les soldats français. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, Anne-Laure Pinault, qu'il s'est passé quoi? Pas grand-chose? Qui a été réellement inquiété au final maintenant?
Alors, je vais plutôt laisser la parole à Leïla qui a travaillé Leïla. Sur cette enquête.
Alors, tout à fait. J'ai travaillé avec Justine Brabant sur cette enquête sur Sangaris. Donc, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit. C'était la question de la mise en cause des soldats français dans la question des violences sexuelles perpétrées sur le camp Mpoko en Centrafrique. Aujourd'hui...
On va rappeler un chiffre. Il y avait eu combien? 41 mineurs, je crois.
Exactement. C'est beaucoup, hein. 41 mineurs. Et malheureusement, on n'a toujours pas les chiffres finaux. Aujourd'hui, la justice refuse de se prononcer sur le nombre d'enfants aujourd'hui qui ont porté plainte en Centrafrique. Mais on sait par les avocats qu'eux ont comptabilisé 41 enfants victimes. Donc du coup, on a travaillé dessus et aujourd'hui, c'en est où? C'est le procureur qui a requis un non-lieu. Donc pour l'instant, le non-lieu n'est pas n'est pas prononcé, donc c'est pour l'instant toujours requis. Mais malheureusement, il se dessine avec une évidence bien malheureuse.
Et ce qu'on entend, ce qu'on lit dans votre livre, c'est qu'on a l'impression que tout le monde se planque derrière les variations de témoignages, en fait. Et c'est finalement tellement facile d'expliquer qu'il y a des variations de témoignages et qu'on ne peut pas être sûr à 100%.
Exactement. On publie les PV, en fait, les PV des gendarmes français qui sont allés enquêter sur place, et on est assez surpris de leur discours. Donc, à de nombreuses reprises, ils expliquent que les membres des associations sont là pour demander de l'argent, que les enfants ne sont pas clairs dans leurs récits, qu'ils ne donnent pas les bons noms. D'ailleurs, parce que leurs agresseurs ne leur ont pas donné leur vrai nom.
En général, on ne se présente pas dans ces cas-là.
Exactement. Ils se sont fait appeler Jackie et Michel, par exemple, en référence au site pornographique. Mmh. Donc, les enfants, naturellement, ont dit ces hommes-là s'appelaient Jackie et Michel. Et voilà, donc ça a été une manière d'écarter effectivement leur témoignage.
Vous l'avez un peu évoqué, ce sont les gendarmes qui se sont occupés de cette affaire. Ce sont les prévôtos, en fait. Ça veut dire gendarmes contre militaires, c'est le même corps. Est-ce que le problème ne commence pas là, finalement ?
Complètement. C'est un vrai problème. En France, quand on enquête sur l'armée française, c'est les militaires eux-mêmes qui enquêtent. D'ailleurs, c'est la gendarmerie prévôtale, donc c'est une unité spécifique.
Ils sont là pour ?
Exactement. Ils sont déployés sur les territoires, les opérations extérieures françaises, et c'est eux qui enquêtent, sauf qu'ils dépendent totalement des moyens de l'armée, c'est-à-dire le moindre véhicule, le moindre hélicoptère, d'ailleurs ils mangent avec les militaires, ils sont sous la direction certes du procureur en France, mais également du général qui dirige les opérations, donc il y a un vrai problème d'indépendance qui est posé sur cette gestion.
Vous racontez par exemple que pour l'un d'eux, il a fallu 5 mois pour aller montrer des photos à une jeune fille qui s'est retrouvée enceinte après un viol, alors que s'ils avaient pris la route, c'était tellement plus simple, ça aurait duré 6-7 heures, peut-être 8, et c'était fait.
Exactement, c'est potentiellement la seule preuve matérielle, en fait, qu'une violence sexuelle a été commise en République centrafricaine. Il y a une jeune femme qui est enceinte, une jeune femme mineure qui était enceinte, qui était prête à faire le test ADN, en fait, à faire le test ADN pour démontrer qu'elle avait bien été agressée. Et effectivement, son dossier s'est visiblement perdu. Donc l'excuse qui a été donnée, c'est qu'on n'a pas d'hélicoptère. Donc notre journaliste Justine Bravant s'est rendue sur place. Elle a fait la route en 2 heures. Exactement. Donc certes avec un 4x4, parce que c'est quand même des routes qui sont caoteuses, mais elle a pu le faire.
Anne Lorpino, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vient de dire Leila Mignano. Ça veut dire que les preuves, elles existent, en fait. Et dans les enquêtes qui ont été les vôtres, c'est pareil. Et partout, quand on parcourt ce livre, qu'on soit en Syrie, qu'on soit en Ukraine, qu'on soit aux États-Unis ou ailleurs, les preuves existent. Il suffirait de s'en saisir, au final.
Oui, c'est peut-être la chose la plus déchirante dans cette histoire, c'est que sur les 6 enquêtes sur lesquelles on a travaillé, on a à chaque fois constaté les mêmes choses. Les preuves, elles sont là. Les documents, ils sont là. Mais le fait que ça concerne le viol, ça empêche toute enquête de progresser et ça rend l'impunité effective.
Alors vous avez enquêté par exemple aux États-Unis sur ces fameuses prisons de la CIA, en voyant passer notamment, en pouvant discuter notamment avec ceux qui à un moment sont passés, y compris par Guantanamo, et dont pour certains ils ont pu revenir. Et ce qu'ils racontent effectivement là aussi c'est assez épouvantable. Les images d'Abu Ghraib et de cette fameuse prison, on les a tous en tête. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est par exemple, et moi je l'ai découvert dans votre livre, que lors de certains interrogatoires, on met une femme nue dans la salle d'interrogatoire, ce qui met évidemment les accusés dans un état de malaise extrêmement important.
Oui, on a même rencontré un des avocats de la CIA qui a rendu l'humiliation sexuelle effective dans le cadre du programme de torture. Le fait de mettre des femmes soldats dans une salle d'interrogatoire, une femme qui se déshabille, une femme qui va par exemple faire mine de mettre du sang menstruel sur la joue d'un détenu ou de se frotter contre lui, c'est quelque chose de systématique et c'est quelque chose qui démontre vraiment une envie de casser un détenu de l'intérieur, et ça a été travaillé avec des psychologues, ça a été travaillé de façon scientifique dans les bureaux de la CIA très en amont.
Et ça, c'est une forme de torture, parce que c'en est une qui n'a pas pour but de faire avouer quoi que ce soit, ça s'appelle juste humilier pour humilier.
Le but est clairement de casser les défenses de quelqu'un. D'obtenir des éléments qui peuvent ensuite
conduire voilà, à la guerre en Irak, en fait. Le but n'était pas les aveux, le but était d'avoir des éléments de preuve pour lancer la guerre sur un autre terrain.
Et alors ça, on s'en souvient, et notamment ce qui s'est passé dans les prisons irakiennes, et notamment à Abu Ghraib, il y a quand même eu un certain nombre de gens qui ont été arrêtés ou démis de leurs fonctions. Est-ce que ça veut dire que seuls les lampistes ont trinqué, en gros?
Tout à fait.
Le petit personnel, si je puis dire, dans cette prison.
Tout à fait. Les boucs émissaires, ça a été, par exemple, dans le cadre de l'affaire Abu Ghraib, des détenus de dernière classe, des militaires de dernière classe. La directrice d'Abu Ghraib, Janice Karpinski, qu'on interviewe dans le livre. Mais les vrais responsables, donc ceux qui sont bien protégés dans leur bureau, les personnes qu'on a rencontrées par ailleurs, eux sont très protégés, ont une retraite avec plusieurs zéros.
Sur la feuille de paille, vous voulez dire ?
Exactement.
Ce qui frappe quand on vous lit, c'est le chapitre sur l'ONU et celui sur la Cour pénale internationale aussi. On a l'impression que du côté de l'ONU notamment, on n'a pas envie de les faire, ces efforts-là. On n'a pas envie de savoir, on n'a pas envie de creuser, Leila Mignano.
Non. Et on n'a pas du tout envie de creuser, puisqu'effectivement, les casques bleus de l'ONU et les fonctionnaires ont été à plusieurs reprises mis en cause dans les affaires de violence sexuelle partout dans le monde, en République démocratique du Congo, en Haïti, en République centrafricaine, sur énormément de terrains. Les casques bleus et les fonctionnaires de l'ONU ont été mis en cause dans cette affaire, et systématiquement, grâce à ce bureau des affaires internes chargé traditionnellement d'enquêter sur
le BSCI, qui doit enquêter à l'intérieur de l'ONU normalement.
Voilà, qui en fait est un organisme qui sert à planquer ce type d'exaction sous le tapis pour éviter de mettre en cause des États et que les sanctions soient prises. Donc on se retrouve, comme dans toutes nos enquêtes à chaque fois, avec des auteurs d'agressions laissés libres de rentrer chez eux et des victimes, des survivants et des survivantes qui, elles, malheureusement, n'obtiendront pas justice.
Vous avez un des enquêteurs notamment qui n'y travaille plus aujourd'hui et qui dit qu'en gros, ils n'ont pas le droit de poser certaines questions. Il faut rester sur une sorte de checklist, mais on n'a pas le droit d'aller plus loin, en fait.
Exactement. Donc, ils sont tenus par une feuille, donc très administrative, et on doit cocher les cases. Donc, cette personne-là a-t-elle répondu ça ? L'autre a-t-elle répondu ça ? Et du coup, selon les réponses, qui cadrent ou pas, on met l'affaire de côté, etc. Mais malheureusement, on la met très, très souvent de côté.
Mais Anne-Laure Pinault, qui freine ? Qui freine sciemment ? Est-ce que ça marche pareil d'un secrétaire général à l'autre ? Est-ce que, de toute façon, de tout temps, si je puis dire, et qu'il y a peu de chances pour que ça change là, y compris avec un nouveau secrétaire général ?
Alors, qui freine, j'avoue que...
Alors, en général, les personnes qui freinent, c'est les plus haut gradés, puisqu'en fait, le viol, ça fait sale. C'est très, très mauvais pour l'image. C'est quelque chose qui est considéré comme le tabou des tabous. Donc, une armée française, américaine, ou bien l'ONU, évidemment, la Cour pénale internationale, ont une image à protéger et sont prêtes à tout pour pouvoir la protéger. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est prêt à laisser les affaires de côté. Et c'est pour ça que la presse aussi a un rôle très important dans l'affaire. À chaque fois qu'une affaire a réussi à remonter au plus haut, comme on peut penser à Mpoko, où c'est effectivement le Guardian qui sort l'affaire, c'est à ce moment-là que les gens commencent à s'y intéresser.
Il y a un chiffre que vous citez, qui vient de la Cour pénale internationale, qui dit qu'en gros, un tiers des affaires de violence seulement sont examinées, et qui dit surtout qu'il y a eu 3 procès dont 2 acquittements.
Exactement. Donc ça, c'est un peu le dernier maillon qu'on a voulu investiguer, puisque la Cour pénale internationale est pour beaucoup de victimes la seule voie d'issue qui reste pour obtenir justice. Mais malheureusement, donc nos enquêtrices, Ariane Puccini et Camille Jourdan, ont travaillé 2 mois, ont fait un travail de fourmi où elles ont regardé dossier après dossier. Elles se sont rendues compte que seulement un tiers des affaires étaient prises en compte. C'est systématiquement, les violences sexuelles sont la dernière roue du carrosse.
Vous le disiez, sur l'affaire de Sangaris, par exemple, c'est le Guardian qui a fait sauter la première bombe, si je puis dire, et qui a montré ce qui se passait, qui a obligé au moins à ce qu'enquête se passe. Est-ce qu'avec ce livre, Impunité Zéro, est-ce que vous avez déjà réussi par vos enquêtes à faire avancer des choses ? Est-ce que les lignes ont bougé ou pas ?
Eh bien, on croise les doigts, puisque demain, nous avons rendez-vous au ministère de la Défense, donc du coup, qui a entendu les pétitions, puisqu'il y a eu 4 pétitions qui sont sorties à la suite des enquêtes sur change.org, plus de 400 000 signataires donc, qui ont signé les pétitions.
Et notamment une pétition qui demande de la prévention dans les écoles militaires, ce qui est quand même extrêmement intéressant.
Exactement, parce qu'effectivement la sanction est importante. La sanction est importante puisqu'il faut punir les responsables. Mais par ailleurs, la prévention est déterminante. On est surprise des paroles qu'on peut entendre dans la bouche des soldats français qui sont « Mais vous savez, en Afrique, les femmes ont la sexualité plus libérée ou il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui vend son corps pour nourrir son enfant. » Des phrases qui sont extrêmement choquantes. Et donc, du coup, il y a un vrai travail de formation à mener. Et demain, c'est ce qui va être abordé avec le ministère de la Défense.
Parce qu'effectivement, c'est l'impunité qui autorise le viol. S'il n'y a plus d'impunité, ce sera subitement plus facile, Anne-Laure Pinault.
Oui, tout à fait. Nous, c'est un peu la chose qui nous porte le plus. Et même si, vous l'avez dit tout à l'heure, le livre peut être une lecture très dure et on peut croire qu'il n'y a pas d'espoir, en l'occurrence, avec le fait
non,
que...
Non, c'est dur, mais il faut plonger, effectivement.
Voilà, ouais. Et le fait que les survivants et survivantes parlent de plus en plus et brisent le tabou, la force qu'ils ont, ainsi que la force des lanceurs d'alerte et lanceurs et lanceuses d'alerte à l'intérieur des institutions... On peut croire que l'impunité peut-être va se...
Et qu'ils payent cher, hein, les lanceurs d'alerte, notamment celui de l'opération Sangaris. Enfin, tous ces lanceurs-là le payent extrêmement cher. En général, le payent de leur poste, en fait. Et c'était le cas notamment à ce moment-là, non,
Tout à fait.
Et Lamignano.
Exactement. Non seulement c'est leur poste, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, en général, avant de perdre leur poste, c'est tout un processus de harcèlement moral qui s'ensuit, de mise au ban, de mise en cause de leur parole, etc. Donc c'est généralement des dépressions, voire plus... aujourd'hui, d'être lanceur d'alerte, c'est un vrai risque.
Il paraît qu'il y a une proposition de loi en Ukraine aussi, pareil, qui a émané de votre livre.
Exactement, ça, c'est aussi une grande fierté. Donc l'enquête d'Ilioné Schulz et de Marie-Alix de Tri, donc c'était la première enquête qui sortait sur les violences sexuelles en Ukraine, donc encore un sujet, alors que ça fait combien d'années que des journalistes et les organisations internationales travaillent sur ce conflit, et à ce jour, personne ne s'était intéressé à ce tabou-là. Donc elles ont démontré que des deux côtés, côté ukrainien, côté russe, des violences sexuelles avaient été commises. Et donc du coup, une association s'est saisie de la question sur place et a déposé un projet de loi donc, qui est en cours et peut-être qu'on verra les résultats, les fruits de ces investigations et, dans quelques jours.
Ça me fait plaisir de terminer avec vous sur une note positive. Merci à vous, Leila Mignano. Merci, Anne-Laure Pinault. Vous allez rester éventuellement pour la deuxième heure, discuter avec nous dans le téléphone sonne parce que ce que vous avez vécu et la manière dont vous l'avez raconté aussi nous intéresse. Je rappelle que votre livre s'appelle Impunité Zéro, violence sexuelle en temps de guerre. L'enquête s'est publiée aux éditions Autrement. Et puis vous nous l'avez dit, donc il y a un film d'animation qui sortira au mois de mars.
Exactement.
Mars 2018. Voilà, j'ai tout retenu.
Aujourd'hui,
c'est une chose magnifique, une fête extraordinaire.
France Inter vous fait découvrir en avant-première les titres de Lily Passion.
J'avais pas le souvenir, c'était sorti en disque, c'est bizarre.
L'album inédit de Barbara.
Est-ce qu'on va écouter maintenant? La chanson s'appelle Tango Indigo.
On s'est trouvés sans se chercher. Nos regards se sont rencontrés et notre vie était changée.
La nuit est bleue comme tes yeux. Je te désire à en mourir. Tu me parles en fumant des blondes. Y a-t-il d'autres amants, mon monde, qui soient heureux comme nous deux? La nuit est bleue comme tes yeux. Tango, tango, indigo, blue tango contre ta peau. On est comme deux évadés qui ne croient pas ce qui est arrivé. Après, je sais plus les paroles, mais je vais t'en dire de plus folle. C'est l'histoire d'un assassin blanc qui rencontre une illipation. Ça se passe dans une fête foraine. Oui, un bain d'un néon aux yeux verts. Non, pas les yeux verts. Alors c'était quoi les paroles? Pas la peine que tu t'en souviennes. C'est plus beau que la vraie chanson. Cette histoire d'un assassin blanc qui rencontre de l'illipassion. Tango, tango, indigo, blue tango contre ta peau. indigo, le blue tango, tango.
Donc dans les inédites Barbara qu'on écoute toute la journée sur France Inter, Tango Indigo.
France Inter, en direct de Bayeux, Fabienne Saint-Est.
18-20 spécial sur France Inter, en direct de Bayeux, en effet, et en public aussi pour le prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. On a quitté l'Ukraine à l'instant, on a quitté les États-Unis, on a quitté la Centrafrique. Je voudrais qu'on plonge en Syrie et plus précisément à Raqqa. Bonjour Alaa Kodmani.
Bonjour.
La jeune femme que vous nous présentez s'appelle Nissan Ibrahim. En vérité, c'est pas son vrai nom d'ailleurs.
C'est son pseudo.
On va donner son nom d'ailleurs. Elle s'appelle Rukia Hassan en vérité. Mais tout au long de votre livre, Nissan Ibrahim est sous ce pseudo parce que cette jeune femme est devenue, sans le savoir, un symbole de la révolution syrienne, sans le savoir. Parce qu'elle est morte, parce qu'elle a été apparemment décapitée. Sa mort est pas très claire d'ailleurs. En tout cas, l'un des symboles, simplement parce qu'elle avait une page Facebook et qu'elle a documenté sa vie à Raqqa juste avant, pendant aussi que la ville était capitale des djihadistes. Alaa Kodmani, vous ne l'avez jamais rencontrée en réalité. Vous l'avez découverte vous aussi par le biais des réseaux sociaux en vous disant mais qui est cette femme ? Qui est cette jeune femme finalement qui nous a raconté tout ça ?
C'est ça. Alors que j'étais en contact avec beaucoup de gens à Raqqa, depuis que j'y étais allée, et j'avais gardé surtout ces milieux qui s'exprimaient justement sur les réseaux sociaux, ces activistes et tout ça, quand j'ai appris qu'elle avait été exécutée au début de l'année 2016, je me suis dit, tiens, mais qui est celle-ci ? Qui est cette fille ? Et je me suis renseignée. J'ai découvert qu'on avait, comme on dit sur Facebook, des amis en commun. J'ai commencé à les contacter les uns après les autres. Qui c'est cette fille ? Vous la connaissiez ? Et quand je demandais, vous connaissiez Rukia Hassan ? Qui c'est ça ? Quand je disais Nissan Ibrahim, le nom, son pseudo sur Facebook, là, tout le monde la connaissait. Beaucoup avaient correspondu avec elle, beaucoup l'avaient rencontrée. Et tout d'un coup, j'ai redécouvert sa page Facebook qui raconte effectivement toutes les étapes par lesquelles est passée la révolution syrienne, et Raqqa en particulier, entre 2011 et 2015.
Ce qui est étonnant, et c'est pour ça que ça la rend à la fois attachante et particulière, c'est qu'elle n'est pas vraiment activiste, Nissan Ibrahim. Elle suit beaucoup les choses depuis son ordinateur et depuis sa page Facebook. C'est vraiment quelqu'un de totalement ordinaire. Elle est prof de philo, elle donne des cours, et il y a une Nissan du jour, une Nissan de la nuit. Vraiment, le jour elle donne ses cours, la nuit elle est à fond sur son ordi.
Oui, elle se transforme une fois qu'elle prend possession de son moyen d'expression, en quelque sorte, qui est Facebook, et sous pseudo parce qu'elle est cachée. Elle raconte vraiment elle dit vraiment ce qu'elle pense, alors que elle est dans un milieu quand même très conservateur. Elle est très surveillée, aussi bien par sa famille que par la société, que par la suite ensuite par le régime et par l'État islamique quand il s'empare de Raqqa. Donc elle est complètement cloîtrée quelque part, et elle ne peut pas vraiment se rebeller contre tout cet ordre, parce qu'il faut qu'elle reste dans le rang. C'est aussi, c'est un peu l'anti-activiste qu'on s'imagine, parce que quelque part elle est soumise, elle insiste, elle s'exprime beaucoup contre les... contre ceux qui se soumettent, mais elle l'est aussi, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle est croyante, elle est très musulmane, elle est pratiquante.
Et d'ailleurs, sa foi n'a pas été remise en cause, c'est intéressant. Elle le dit un moment,
oui,
que sa foi n'est pas remise en cause.
Au contraire, elle dit, moi j'ai la vraie foi, et ces monstres, c'est pas correct.
Ce qui est intéressant quand on la lit, et quand on sait ce qui est devenu Raqqa, et d'ailleurs on ira tout à l'heure faire un tour à Raqqa, c'est que toute cette installation a été extrêmement lente, au final, sans que la population s'en rende compte. Ils ont vu arriver des gens peu à peu, ils ont bien compris que les accents n'étaient pas des accents de chez eux. Tout ça a été très lent, en fait.
Oui, je crois que, bon, ici, maintenant, avec le temps, il se passe tellement de choses à une telle intensité qu'on a tendance à oublier les étapes par lesquelles est passé Raqqa et toute le conflit syrien. Et je sais que moi, quand j'étais à Raqqa, c'était en septembre 2013, l'État islamique avait déjà pris le contrôle de la ville, mais c'était une sorte de transition. On n'était pas encore obligé de s'habiller en noir de haut en bas. Il y avait encore d'autres groupes qui étaient là. Il y avait une lutte d'influence. Il y avait des espaces de liberté. On pouvait aller dans des cafés internet. Les gens sortaient encore. Et bon, ça fait très progressivement. Ce qui fait que le temps de la révolte n'a pas pu se faire. Et par la suite, la révolte s'est construite très progressivement.
Et c'est vrai qu'on apprend d'ailleurs, en vous lisant et en la lisant, qu'il y a eu une sorte de mini-printemps de Raqqa, un peu avant, vers mars 2013, qu'on avait complètement oublié. Il y a eu cette espèce de moment où tout le monde est sorti, les intellectuels, les livres, les journaux, etc. Et puis, pouf, tout s'est refermé d'un coup.
Ce qui est étonnant, c'est que jusque maintenant, et pendant que je faisais mon enquête pour le livre et que j'interrogeais les différentes jeunes étincellement et d'autres personnes de Raqqa, ce moment de printemps de Raqqa, c'était quand même la première capitale de province syrienne qui est passée hors contrôle du régime. Et là, on s'attendait à ce qu'il y ait le chaos total. Et au contraire, les gens de la ville l'ont complètement prise en main et tout le monde était là à vouloir gérer cette ville et à réaliser tous les rêves, quoi.
Et oui, sauf que les rêves se sont un peu écroulés. Nissan Ibrahim, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'à un moment, elle finit par prendre des risques, en fait. À un moment, elle finit par se lâcher un peu. Il y a une photo d'elle où elle n'est pas voilée. Elle dit où elle est. Elle finit par savoir qu'elle est identifiable, et elle le sait.
En fait, elle veut tirer parti, enfin, retourner contre Daesh ses propres arguments. C'est-à-dire, vous m'imposez d'être habillée tout en sous une tente noire pour sortir, eh ben je vais en profiter pour justement faire de l'action, puisque vous ne voyez pas, vous savez pas qui je suis, on me voit pas, celle qui est dans la rue n'a aucun ressemble à toutes les autres femmes couvertes de noir de haut en bas. Donc elle va profiter de ça justement pour d'abord mener quand même avoir des contacts lier des liens et rapporter les informations. Et c'est à ce moment-là qu'elle affiche sa photo un peu comme une provocation sur son profil Facebook, en disant, bon, bah, maintenant, de toute façon, personne ne me reconnaîtra puisque je suis toute couverte de noir.
Alors, comme on dit rapidement, parce que je voudrais qu'on aille faire un tour à Raqqa, est-ce qu'on sait comment elle est morte, finalement? Est-ce qu'on sait exactement quand? Est-ce qu'on sait réellement ce qui s'est passé?
Écoutez, j'ai recoupé un petit peu les témoignages des gens qui étaient autour d'elle. Pas sa famille directe, qui ignore d'ailleurs en réalité comment ça se passe, parce que bon, elle disparaît, et puis après, quand la famille demande où elle est, ils vont auprès des organismes de l'État islamique poser les questions, on leur dit à un moment donné, on a fini par leur dire, elle a été exécutée.
Alaa Kodmani, vous allez passer du temps avec nous ce soir, je voudrais qu'on y aille dans cette ville de Raqqa que vous n'avez pas vue, vous, depuis 2013, j'imagine qu'il vous tarde aussi d'aller voir aujourd'hui à quoi ça peut ressembler. Désormais, c'est une ville qu'on dit presque reprise. On va voir ce qu'il en est tout de suite grâce à Franck Madvon qui, pour France Inter, a pu faire des incursions rapides et nous expliquera d'ailleurs ensuite comment ça se passe. On écoute son reportage.
Le véhicule militaire des forces démocratiques syriennes prend la direction du centre de Raqqa. Il traverse une ville dévastée. Des immeubles devenus des carcasses de béton, pulvérisés par les bombardements. Surtout ne pas sortir du chemin, la ville est truffée de mines. La ligne de front, côté ouest, il faut escalader des débris vers le dernier étage d'un immeuble.
D'ici, on contrôle l'hôpital. Cet endroit est stratégique.
Jäger Dirk, l'un des chefs du front ouest.
Il y a de nombreux civils dans cet hôpital. De là où on est, on garde un œil sur les snipers qui les surveillent.
L'hôpital est en face, à 100 mètres.
Si on libère l'hôpital, on libère la ville en 48 heures.
De l'immeuble, on voit également le stade. Là aussi, des civils sont pris au piège. Ce sont les deux grandes batailles du moment. Impossible de bombarder ces sites. Les civils servent de boucliers humains.
C'est un avion de la coalition qui a frappé Daesh. Un drone a repéré l'endroit et l'avion a bombardé.
Le commandant Hamza Kochar a 29 ans. C'est l'un des soldats pourtant les plus âgés.
Sous nos yeux, dans cette rue, il y a encore des cadavres d'enfants entre nos lignes et celles de Daesh. Personne ne peut aller les chercher. C'est une honte. Vraiment.
Les djihadistes ne sont plus que 500 à résister dans quelques poches du centre-ville. Ils parviennent encore à prendre par surprise les forces démocratiques syriennes. Hamza Kochar nous montre un accès souterrain bloqué par un amas de meubles et d'objets.
C'est un tunnel de Daesh. Il y a aujourd'hui un raqqa souterrain. Il y a trois jours, des types de Daesh sont sortis de ce tunnel pour nous attaquer. On est obligé de fermer les tunnels pour être en sécurité, pour que Daesh ne passe pas derrière nos lignes.
Au dernier étage de cet immeuble, les soldats, presque tous kurdes ou arabes, ont improvisé une sorte de salon. Certains boivent le thé à deux pas des combats. Le talkie-walkie de Gabar Derik, autre chef du front ouest, crépite. Il consulte une tablette numérique sur laquelle s'affiche un plan satellite de Raqqa.
Un camarade a été blessé. On essaie de le sortir, mais on n'y arrive pas. Il y a des snipers. La tablette, c'est très important. Les camarades nous indiquent les lieux où il y a des blessés ou des snipers, et on peut transmettre leur localisation.
Des milliers de civils sont encore bloqués dans Raqqa, à la merci de Daesh. Ce matin, une cinquantaine de personnes affamées ont pu s'enfuir. Parmi elles, un jeune homme couché sous une couverture.
L'avion de la coalition a frappé une voiture de Daesh. Et j'ai été blessé par l'explosion, au niveau des pieds et de ma jambe droite. Il a fallu la couper. Ça va mieux maintenant, je suis en sécurité, mais le pied cassé de mon autre jambe me fait souffrir. J'ai besoin d'une opération.
Un militaire intervient discrètement et demande à nous parler.
On a des documents sur lui, des preuves qu'il a recruté des enfants pour Daesh. Il fournissait des enfants à l'organisation et obtenaient de l'argent en échange.
Les djihadistes se mêlent parfois aux civils, surtout dans les derniers jours de la bataille. Pour l'officier Jäger Dirk, la victoire ne fait plus aucun doute.
Des gens ont été égorgés, amputés. Daesh a aussi torturé des enfants. C'était une question d'honneur de m'engager et j'irai jusqu'au bout.
Les djihadistes seront défaits dans quelques jours, quelques semaines. Ils vont hanter la ville encore longtemps. En repartant du front, le véhicule militaire passe devant les vestiges d'un bâtiment. Sur l'un des murs, une immense inscription en blanc sur fond noir, signée Daesh.
Alors, Codemani, on entend l'optimisme des combattants, optimisme au micro, évidemment. En réalité, est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'on est aux portes de cette reconquête de Raqqa ? De ce que vous en savez, vous ?
Je ne sais pas si c'est de l'optimisme. Ça fait quand même quelques semaines. Ça aurait été très, très douloureux. Et pour éradiquer, comme pour utiliser les mots des politiques, Daesh de Raqqa, il a fallu éradiquer Raqqa. Mm. Et il faut se dire que cette ville de plus de 250 000 habitants, maintenant il y en a à peine 10 000, que la majorité des habitations sont complètement écrasées. Et on voit même plus comment... Enfin, moi, j'ai une famille, justement, qui attendait ce moment de la libération.
Vous allez vous poser la question, est-ce qu'on peut revenir ? On entend la ville sera longtemps hantée par Daesh, mais est-ce que la ville va se relever réellement ?
Mais quand il n'y a plus de... La famille chez qui j'étais, et qui attendait ce jour pour revenir, ils ont vu une vidéo de leur immeuble complètement écrasé. Donc, ils n'ont plus même où revenir. Mmh. Je crois que ça va être encore long. On ne sait pas si on va célébrer la libération, entre guillemets, de Raqqa. Ça a été très long, très douloureux, très coûteux. Bon, et on nettoiera Daesh de Raqqa, mais ce ne sera pas le seul mauvais souvenir.
Et ça a été une capitale opportuniste, en fait. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'à la base, Raqqa, pardon pour les gens de Raqqa, mais c'est rien. En fait, c'est une ville au milieu d'autres, mais voilà, c'est ça.
C'est une ville vraiment très insignifiante. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a connu ce sort. Parce que, finalement, le régime de Bachar al-Assad n'a pas cherché à la défendre outre mesure. Quand il a fallu lâcher un front, c'est le premier front qu'ils ont lâché. Tant pis pour Raqqa. Par la suite, à cause de la proximité de l'Irak quand même, Daesh s'en est emparé.
À la Côte-Manie, je voudrais qu'on retrouve Franck Madvon, parce que ce genre de reportage qu'il nous a fait entendre rappelle beaucoup de questions aussi sur ses conditions de réalisation. Et c'est ce qu'on a fait en parlant à Franck pour essayer de vous donner à comprendre aussi. Franck, on entend évidemment dans ce reportage les hommes qui sont avec vous et qui vous ont emmené jusqu'à Raqqa. Expliquez-nous avec qui vous étiez exactement et surtout avec eux, comment ça se passe ?
Alors d'abord, on ne rentre pas facilement, évidemment, à Raqqa. Il faut être patient, la route est longue, la frontière avec la Turquie, vous le savez, est fermée. Il faut donc passer par l'Irak, puis traverser le nord de la Syrie, contrôlé par les Kurdes. Les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, accordent généralement aux journalistes une autorisation pour passer les nombreux barrages. Et c'est avec elles qu'il faut négocier. Sur place, à Raqqa, des combattants de ces FDS servent de guide. Ils sont plus ou moins accueillants, plus ou moins souples, mais dans l'ensemble, ils sont très fiers de leur combat et très fiers que des médias s'y intéressent.
Et Franck, quand vous disiez il faut du temps pour arriver jusque-là, par exemple, du temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre le moment où vous avez l'autorisation de partir et vous pouvez rentrer, c'est quoi ? C'est 4 heures, c'est 5 heures, c'est plus que ça ?
Alors, il faut environ 2 jours depuis Erbil pour accéder à la région de Raqqa, dans le nord de la Syrie. Mais il faut savoir que pour des raisons de sécurité, on ne peut dormir qu'à 4 ou 5 heures de route de Raqqa à Kobané, dans le nord. Alors, il faut donc se lever très tôt le matin. On a pu passer, en fait, 3 journées à Raqqa avec les combattants. Mais les conditions de sécurité ne sont pas toujours réunies pour pouvoir travailler. On a fait un jour 10 heures de route pour rien. Des djihadistes avaient exploité leur réseau de tunnels, on l'entendait dans le reportage, pour faire irruption dans une zone libérée. La situation était donc trop dangereuse ce jour-là et les soldats nous ont demandé de partir.
Donc ça veut dire, journalistiquement, on ne peut faire que des incursions pour l'instant. C'est des incursions de combien de temps, en fait ? Est-ce qu'on rentre, on sort ? Est-ce qu'on peut rester, avoir le temps de voir les choses ? Ça se passe comment ?
Alors, si on arrive très tôt le matin, si on part très tôt plutôt, on peut arriver en milieu de matinée à Raqqa. À ce moment-là, il est possible d'y rester une bonne partie de la journée avant que le soleil se couche. La règle initiale, nous avait-on dit, était de partir forcément à 15 heures. Le fait est que nous avons pu presque voir le coucher du soleil à Raqqa. Nous avons pu rester jusqu'à 18h, 18h30. Ça dépend, bien entendu, de l'accueil que nous réservent les combattants sur place. Ça dépend aussi des conditions de sécurité. Si nous sommes près du front et que des combats sont en cours, que les Humvee, les véhicules militaires, ne sont pas disponibles pour nous ramener vers les bases arrières, à ce moment-là, il faudra rester plus longtemps.
Franck, j'ai une curiosité. En même temps que j'écoutais votre reportage, je pense à cet homme que vous avez interviewé qui s'est glissé parmi les civils, en fait. Donc, il fait croire qu'il y a un civil et vraisemblablement, c'est plutôt un djihadiste, ou en tout cas, c'est le soupçon, on va dire, des soldats qui sont avec vous. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme ? Qu'est-ce qu'on en fait ensuite ?
Alors, le militaire qui nous parle également dans le reportage nous a dit que ce jeune homme serait interrogé et qu'il serait certainement poursuivi. En tout cas, les forces démocratiques syriennes ne laissent pas s'évanouir ces individus dans la nature. Il faut éviter, bien sûr, que des cellules dormantes puissent se réveiller dans quelques temps. Cela dit, il ne fait aucun doute que des djihadistes auront réussi à s'échapper de Raqqa par ce biais.
Vous nous parlez aussi dans votre reportage de la difficulté forcément pour les civils qui servent aussi de boucliers. Pour l'instant et en attendant, comment ils vivent ces civils ? Est-ce qu'ils sont terrés ? Est-ce qu'ils sortent quand même ? Est-ce qu'ils parlent avec les soldats ? Ça se passe comment pour eux ?
On en a rencontré quelques-uns. Évidemment, Raqqa est totalement vidée de ses habitants. La plupart d'entre eux ont quitté la ville il y a plusieurs mois, plusieurs semaines. Quelques milliers d'entre eux, sur les 2 à 300 000 habitants de Raqqa, sont encore entre les mains de Daesh. Ils vivent au milieu des djihadistes. La situation est évidemment très difficile pour eux. Ils n'ont pas d'eau, pas de nourriture, bien souvent. Quand ils veulent aller chercher de l'eau, il faut qu'ils bravent les mines, les engins explosifs qui sont placés partout en ville. Ceux qu'on a rencontrés qui ont pu s'extraire de Raqqa nous racontent qu'ils ont vécu un véritable cauchemar ces dernières semaines. Ils vivaient côte à côte avec Daesh, qui s'en sert véritablement de boucliers humains. C'est leur seule utilité.
Mais côte à côte, pardon Franck, ça veut dire qu'ils rentrent dans les maisons vraiment pour être vraiment avec eux? Ça veut dire quoi, côte à côte? Est-ce qu'il y a une telle promiscuité en fait?
Alors, ça veut dire, d'après ce que nous ont dit les civils, que les djihadistes les obligeaient à vivre dans les mêmes immeubles, dans les mêmes maisons et très souvent dans les souterrains. Vous savez que maintenant, à Raqqa, on en parlait également dans le reportage, Absolument. Il y a une sorte de ville souterraine, des tunnels qui ont été creusés par les djihadistes. Il y a deux endroits principaux où se trouvent ces civils actuellement, l'hôpital et le stade. Ils sont encore quelques milliers et ils vivent véritablement avec les djihadistes qui comptent sur eux pour dissuader la coalition internationale, les Américains, de mener des frappes ciblées qui feraient évidemment beaucoup de victimes.
Merci mille fois Franck Manvon, merci aussi à Gilles Gallinaro qui est avec vous. Merci de ce récit et de ce reportage aussi en direct de Raqqa. Alors en direct de Raqqa, pour être tout à fait honnête, pas tout à fait, puisque Franck à ce moment-là était rentré à Erbil forcément, et c'est grâce à lui et c'est à ce moment-là que qu'on arrive à joindre. Et merci encore à Gilles Gallinaro effectivement qui s'occupe de la technique et dont les vidéos sont en ligne sur le site franceinter.fr et que je vous conseille vraiment d'aller voir. À la Côte Manie, juste un dernier mot, parce que je veux qu'on finisse quand même sur Nissan Ibrahim, que ce soit elle finalement qui ait le dernier mot, Raqqa Hassan d'ailleurs. Il y en a beaucoup, vous pensez, il y en a eu beaucoup des Antigones comme elle, en fait, qui ne partent pas, qui restent et qui coûte que coûte sont là dans cette guerre-là. Il y en a encore beaucoup.
Il y en a. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a.
Sûrement
mais
de moins
il
en
y
moins.
A surtout. Bon, il y a celles qui se sont pas exprimées. Il y a eu beaucoup d'héroïnes complètement anonymes. J'ai pu parfois transmettre leurs témoignages et j'espère pouvoir le faire plus tard. Mais c'est vrai que les femmes à Raqqa ont joué à un moment donné, quand les hommes n'osaient pas sortir, ne pouvaient pas, de peur d'être arrêtés ou d'être embrigadés, ou etc. C'est souvent les femmes qui prenaient
finalement
tout
l'abaya
en charge.
Pour ça, c'est et se planquer voilà. derrière et marcher
c'est
dans
ça,
la ville.
Se planquer derrière cet abaya ou sous cet abaya. Qui leur a permis même de faire des choses pour les enfants, pour l'éducation, pour de braver un petit peu les interdits de Daesh.
À la Côte Manie, vous allez rester avec nous, mais votre livre s'appelle Seul dans Raqqa et c'est publié chez Équateur. Merci beaucoup de votre présence dans le 18-20 de France Inter, ici en direct et en public à Bayeux pour le prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. On se retrouve autour de la même table pour le téléphone sonne. Ce sera dans un instant avec cette question: peut-on voir le monde sans s'engager? Votre avis, votre expérience nous intéresse ici dans la salle, puisque nous sommes en public. 01 45 24 7000 aussi, et franceinter.fr. À tout de suite.